C'est un grand moment que nous vivons maintenant, chers frères et sœurs ou chers amis de Radio Présence, car dans notre commentaire libre de l'Ancien Testament, nous avons lu ensemble par grands traits le livre de Josué, ainsi que celui des juges, et nous arrivons au livre de Samuel. Et avant d'arriver à David, nous allons parler surtout de Samuel, de Samuel le prophète, le dernier juge, et celui qui a intronisé le premier roi. Et c'est donc un grand moment, une grande charnière sur laquelle nous sommes maintenant, face à la porte qui nous ouvre un peu plus les mystères de Dieu. Et nous disions l'autre fois que, en effet, le Seigneur attend David et il cherche un homme de Dieu, un ami pour lui véritablement, et il a poussé son Eureka, comme le rapporte le psaume 89, « J'ai trouvé David, mon serviteur ». Musicien de Dieu, il est le psalmiste, celui qui s'est fait vibrer dans son cœur les chants de l'amitié divine avant de le jouer sur sa harpe. Tout l'humain passe dans ses cantiques, aussi bien le cri de guerre ou l'accent de la vengeance que la complaisance la plus sereine en Dieu. Comme on prélève la graisse pour le sacrifice de communion, dit Sira le sage, ainsi David fut choisi parmi les Israélites. Dans les sacrifices où la victime était partagée entre Dieu et ses fidèles, pour symboliser leur communion de vie, convives, ils étaient convives et vivent ensemble, la graisse était réservée à Dieu comme un mets de choix. Et parmi tous les fils de son peuple, David est ainsi, c'est une image, est la portion privilégiée du Seigneur. Et dans le menu, peut-on dire dans ce climat, dans le menu de ce livre, David constitue aussi le plat de résistance. Mais comme dans tout repas convenable, il est précédé d'une entrée. Josué et les juges, mais plus immédiatement les personnages d'Anne, de Samuel son fils et de Saül qui préparent diversement l'apparition de David. Et les livres de la Bible qui vont nous occuper maintenant, nous en avons pour un moment encore, sont essentiellement les deux livres de Samuel dans les Bibles. Vous les trouvez donc après le Pentateuque, les cinq livres de la Genèse, de l'Exode, des Nombres, du Lévitique, du Deutéronome. Ensuite, c'est donc Josué, les juges, et les deux livres de Samuel dont nous allons parler. Sans doute constitué progressivement dès les premiers temps de la royauté vers le 10e et 9e siècle avant Jésus-Christ, ils ne reçurent guère de forme définitive avant la réforme deutéronomique de Josias vers 622. Excusez-moi de ces précisions, mais elles peuvent être utiles. Nous utiliserons aussi les récits parallèles du premier livre des Chroniques, écrit bien après l'exil, non plus tardivement, vers 300 ans avant Jésus-Christ, et constituant une exaltation de la royauté davidique autour du temple. Littérature optimiste et liturgique, expression d'une véritable foi dans la dynastie issue de David et d'une grande dévotion pour le temple. L'ouverture de cette grandiose symphonie royale propose l'un après l'autre les thèmes principaux qui seront développés dès l'apparition du soliste, comme dans un concerto ou une symphonie. La confiance suppliante d'Anne, la mère, l'écoute fidèle de Samuel, son fils, et la nécessité de l'obéissance qui a fait défaut à Saül. Commençons par Anne. Le premier livre de Samuel, que nous ouvrons maintenant, s'ouvre sur la détresse d'une femme. Chérie par son mari, Anne, la gracieuse, vous savez, celle qui porte le pronom d'Anne, Anne, ça vient du mot hébreu « ren » qui veut dire la grâce, et « ranna », c'est la gracieuse, littéralement. La gracieuse, et c'est assez extraordinaire de penser que la maman de la Vierge Marie, la Vierge Immaculée, qui est Marie pleine de grâce, était une Anne qui signifie la gracieuse. La gracieuse a donné naissance à la pleine de grâce. Donc Anne, la gracieuse, et qui est aimée par son mari est malheureusement stérile, ce qui était alors ressenti comme une infamie. L'autre femme d'Elkana, le mari, est dénommée Peninna, ce qui signifie pierre précieuse ou marguerite. Se sachant moins aimée, profite largement de son avantage de fécondité pour humilier Anne. Il arrive que les femmes soient assez dures entre elles. Le plus dur pour cette dernière est le pèlerinage annuel au sanctuaire de Silo, temple provisoire de l'époque des juges, situé à une trentaine de kilomètres au nord de la bourgade qui deviendra Jérusalem. Et dans le lieu saint, Peninna sait faire comprendre à sa rivale stérile que son infortune est une malédiction divine. L'amour privilégié qu'Elkana lui porte ne suffit pas à consoler Anne. Son mari a la délicatesse de lui exprimer cet amour par une comparaison pleine de tendresse. « Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Mais l'épouse heureuse ne peut oublier que les joies de la maternité lui sont refusées. Aussi, se souvenant d'Ève, dont l'Écriture dit qu'elle acquit un homme de par le Seigneur, ou bien de Sarah et de Rachel qui demeurent fécondes par la toute-puissance de Dieu, en promettant de lui donner le petit d'homme qu'il voudra bien lui faire enfanter, elle forme à son tour un vœu, mais un vœu qui sera extrêmement positif et fructueux.